Radio Kapi.
Plusieurs infractions en cas de violence sexuelle demeurent impunies en Ituri, surtout celles dont les auteurs sont des militaires, constat relevé au cours d'une conférence interactive organisée hier à Bunia par la radio Canal Révélation. Objectif de cette activité, rapprocher les justiciables de la justice, explique l'organisatrice. Confusion pour parler gouvernement banc syndical des enseignants à Kisantu. Alors que le banc syndical annonce la reprise des cours dès demain lundi, la synergie des syndicats des enseignants parle d'une impasse car, dit-elle, le gouvernement fait suspendre la grève des enseignants par ceux qui ne l'ont pas décrété. Et puis, l'invité David Maklaklanka, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, il a conduit une délégation des ambassadeurs cette semaine au Kasaï et au Kasaï central, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en marche du plan après MONUSCO dans le Kasaï. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. La population demande à la justice militaire d'être très active pour contribuer à la lutte contre l'impunité, particulièrement en cette période de l'état de siège. Elle l'a dit hier à Bunia, au cours d'une conférence interactive entre les différentes couches de la population et les acteurs judiciaires, ainsi que des experts en matière des violations des droits de l'homme, conférence organisée par la radio Canal Révélation. Pour les participants, des nombreux auteurs de crimes en cravate ne sont pas inquiétés par la justice. Martial Kiza, reportage.
Lors de cette séance interactive avec les autorités militaires, les représentants de différentes couches de la population sont revenus sur plusieurs infractions considérées comme impunies par la justice. C'est par exemple le cas de violences sexuelles ou de certains crimes graves commis à l'Ituri et dont les auteurs. La majorité de militaires ne sont pas inquiétés. Selon Lambert Pitoua de l'ONG Forum des Mamas de l'Ituri, FOMI, la justice militaire accepte difficilement certains dossiers liés aux crimes graves.
Le première victime, ce sont les femmes, les enfants et les personnes de troisième âge. Je crois que ces cas sont commis aussi plus par les hommes en uniforme. Alors, ce sont des cas dont nous sommes en train de décrire à tout moment.
Ce qui rejette l'auditeur supérieur militaire, le colonel Joseph Makelele, affirme que personne n'est au-dessus de la loi.
Nous ne pensons pas qu'il y ait ceux qui sont au-dessus de la loi. Les gens peuvent être calmes. Il y a vraiment répression et cela est notre objectif.
Richard Pitoua, directeur de la radio Canal Révélation, indique que l'objectif de cette activité était de rapprocher les justiciables de la justice afin de leur permettre de connaître leurs droits. Notons que cette conférence interactive a bénéficié du soutien de Open Society Initiative for Southern Africa. Aussi ça, Bunia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
C'est ce dimanche que se clôture le dépôt des candidatures au poste des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces dites à problème en RDC. Au Maniema cependant, jusqu'hier, 12 formulaires ont été retirés sans aucun dépôt au bureau de réception et traitement des candidatures, BRTC Maniema. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI revient ici sur la journée d'hier. Émile Dimoké est au micro de Florence Kizalunga.
Je tiens d'abord à vous dire que les activités se poursuivent sans désemparer et comme nous n'avons pas une note contraire émanant de notre hiérarchie, nous continuons à travailler comme d'habitude. Aujourd'hui, il y a eu 3 retraits jusqu'à l'heure actuelle. Nous sommes maintenant à 12 retraits. Il n'y a pas de dépôt jusque-là. On attend. Nous avons encore la dernière journée du dimanche. On va voir dans quelle mesure, comment les candidats vont se comporter. Il n'y en a pas. Pendant, vous pouvez retirer et déposer le jour même pourvu que les dossiers soient complets, donc c'est-à-dire sur le plan de la quantité des pièces et sur le plan de la qualité. Bon, ça ne dit rien pour nous. Bon, en fait, je sais qu'ils vont déposer. Ah bon, c'est tout. Et donc le dimanche, nous allons clôturer les activités. C'est-à-dire, s'il y a des candidats retardateurs qui arriveront juste à la clôture des activités du BRTC, nous allons leur remettre le jeton et qui pourront passer le lundi pour le dépôt de leur dossier de candidature.
Restons au Maniema pour parler santé. Cette province est la deuxième après le Haut-Ouélé avec un taux de prévalence élevé de VIH. Les jeunes adolescents sont les plus affectés, c'est ce que révèle le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Et dans ce cadre, le PNMLS organise à Kindu une série d'activités sur la promotion de la santé sexuelle au profit des différentes couches de la population, ce avec l'appui de l'UNICEF. Écoutez à ce sujet le docteur Charles Kibonge, chargé de partenariat et appui au secteur du PNMLS. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Ces activités que nous menons, ce sont des activités qui s'étalent dans le paquet intégré all-in, qui veut dire tous dans, mais dans le contexte actuel, c'est tous dans pour le bien-être des jeunes et adolescents. C'est en 2015 que le gouvernement de la RDC avec ses partenaires se sont mis ensemble parce qu'il y avait un constat amer. Dans la lutte contre le VIH, on a constaté que ce sont les jeunes et adolescents qui sont plus exposés. Alors, cela devrait être déjà une situation qui devrait donner un sens de vie de tous les partenaires et des gouvernements, comment on peut encadrer ces jeunes pour diminuer les taux d'infection du VIH-Sida en République démocratique du Congo et surtout dans la province du Maniema. Nous tous, nous devons unir nos efforts pour lutter contre le VIH qui menace nos jeunes adolescents partout au monde et précisément dans la province du Maniema.
Rendons-nous en Ngandajika, dans la province de Lomami, où se tient depuis jeudi le premier colloque interdisciplinaire pour célébrer les 15 ans d'existence du projet d'Itunga. À l'occasion de ces travaux, Esther Ndalafina nous dresse le portrait de cette cité. Sur le plan administratif, Ngandajika est une entité déconcentrée. Elle est située presque au cœur de la province de Lomami, sur la nationale numéro 2, axe Mbujimayi-Lubao. Connue pour son grenier agricole, la cité de Ngandajika produit des grandes quantités de maïs, de manioc, de niébé, d'huile de palme et des arachides, suivant d'autres détails avec Esther Ndalafina.
Ngandajika est une cité située à 90 km à l'est de Mbujimayi et à plus de 150 km de Kabinda. Ngandajika est limitée au nord par le territoire de Katanda, au sud par le territoire de Lwilu, à l'est par le territoire de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Et le territoire de Chilenge se trouve à l'ouest de cette cité. Ngandajika est une cité à vocation agricole suite à son climat tropical avec deux saisons. La saison pluvieuse est longue et s'étale sur 9 mois, tandis que la saison sèche ne prend que 3 mois. Ngandajika produit de grandes quantités de maïs. Son sol peu argileux a permis à Ngandajika à produire aussi le niébé, le manioc ainsi que l'arachide. Pendant l'époque coloniale, Ngandajika a aussi produit de quantités de coton. Le Chiluba est la langue la plus parlée par les habitants de Ngandajika qui sont regroupés dans les chefferies de Bakwamulumba et de Kalambaye ainsi que dans les secteurs de Chiamba, Lubashankadi et Ngandajika. Cependant, d'autres habitants parlent le Songye, le Kanyok que les Swahili. Étant au centre de la province de Lomami, Ngandajika s'approvisionne en produits manufacturés à partir de Mbujimayi, de Lubumbashi et de Kinshasa. Le sous-sol du territoire de Ngandajika contient des richesses dont le diamant, le cuivre, l'or encore non exploités. De Ngandajika, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Par ailleurs, la ville de Gemena dans le sud Ubangi célèbre cette année les 100 ans de son existence. La révélation a été faite vendredi au cours de la conférence débat organisée par les directeurs généraux de l'ISP et de l'ISTEM Gemena. Objectif, éveiller la conscience des autorités provinciales et de la crème intellectuelle du sud Ubangi sur ce centenaire, mais aussi de préparer la célébration de cet événement historique. Des précisions avec Paul-Richard Malengela.
En quoi le professeur Jeannot Mokili, l'orateur du jour, la création de la ville de Gemena remonte à l'époque coloniale, précisément en 1921, année où ont eu lieu les tractations ayant abouti à la délocalisation de l'ancien poste administratif colonial de Kalo, village dirigé par le chef Ndao, vers le nouveau site appelé Gemena. À l'origine de cette délocalisation, la mort d'une Européenne qui a été foudroyée par des pratiques fétichistes des autochtones en colère. Il leur avait été révélé que les blancs colonisateurs les chasseraient un jour de leur terroir riche en minerais en vue de les exploiter. Ce coup reçu des habitants de Kalo a poussé l'administration coloniale à aller négocier l'acquisition d'un nouveau site entre les rivières Mumbunga côté Bokonzo et Labo côté Bokuda auprès du chef Ngemelina d'où est venu le nom de Gemena. Alors la bourgade a par la suite évolué jusqu'à devenir un vaste centre socio-économique. Aujourd'hui, c'est devenu le chef-lieu de la province du Sud-Ubangi depuis le découpage de la RDC en 26 provinces en 2015. Pour l'orateur, 2021 ne pouvait s'achever sans révéler cette page d'histoire à la population. Cependant, a souligné le professeur Mokili, il appartient à d'autres acteurs politiques et scientifiques d'organiser la célébration solennelle et culturelle du centenaire de Guémena, dont la date exacte reste encore un mystère selon lui. Bandaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
Sud Kivu, les personnes de troisième âge en situation difficile, c'est ce qui ressort du discours prononcé par la plateforme Sauti ya Waze. Cette structure regroupe des personnes de troisième âge au Sud Kivu et dans d'autres localités de l'Est de la RDC. Ce discours a été prononcé hier à l'occasion de la clôture du mois d'octobre dédiée à cette catégorie de personnes. Elles étaient réunies pour la circonstance au Nganda Restaurant Élysée dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Michel Chirimwami était de la partie.
Ils étaient plus d'une cinquantaine de femmes et hommes réunis pour la circonstance. Le secrétaire exécutif de la plateforme a prononcé un discours qui retrace la situation de la personne du troisième âge au Sud Kivu malgré le vote par l'Assemblée provinciale d'un édit portant protection et assistance aux personnes âgées. Janvier Bougiri Richimpiringa, secrétaire exécutif de Sauti ya Waze.
Au Sud Kivu, malgré la publication de l'édit numéro 16/002 du 20 mai 2016 portant mesures d'assistance et d'encadrement des personnes vulnérables de troisième âge par le gouvernement provincial, les personnes de troisième âge traversent un calvaire social et économique accentué par la pandémie de la COVID-19 qui se traduit par le non-accès aux soins de santé primaires, non-accès à la nourriture, non-accès aux agères pour leur autonomisation, non-accès aux vêtements convenables, non accès à un habitat décent.
Le président de la plateforme a soumis les soucis de voir le bureau de la plateforme victime de l'incendie qui a récemment consumé l'hôtel des postes où ils étaient hébergés. Madame Béatrice Kinjamwindanga, commissaire au genre, famille, affaires sociales et relations avec les partenaires au gouvernement provincial, a remis une dizaine de sacs de riz et quelques cartons de savon en guise d'appui. Bukavu, Michel Chimami, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, poursuite des travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical des enseignants, le banc syndical décide de suspendre la grève déclenchée sur toute l'étendue du pays et annonce la reprise des enseignements dès demain, 1er novembre. Ceci est contenu dans un communiqué signé vendredi par Godefroy Matondo, porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST depuis Mbuela Lodge à Kisantu dans le Congo central où se déroulent les pourparlers. Pour sa part, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, qui prend part également à ces travaux, parle d'une impasse au sein des délégations syndicales parce que le gouvernement fait suspendre cette grève par ceux qui ne l'ont pas décrété. Jean Bosco Puna, secrétaire général de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, explique au micro de Paul Matendo Mayamba.
Il faut dire que nous sommes dans une impasse parce que d'une part, le gouvernement fait suspendre la grève par ceux qui ne l'ont pas décrété. Et d'autre part, on négocie les retours de la prise en charge des enseignants par les parents, alors que le gouvernement pouvait bien recourir au financement innovant pour soutenir le financement de l'éducation. Les conseils que nous donnons au gouvernement, c'est d'accélérer les travaux pour que les options fondamentales soient prises afin de pouvoir lier le gouvernement à ses différents engagements et permettre la décrispation totale sur le terrain. La décrispation totale permettra aux enseignants de faire le travail en ayant le cœur à l'ouvrage. Et la synergie tient son assemblée générale le 1er novembre à Kinshasa pour échanger avec les enseignants parce que dans la pratique syndicale, lorsqu'on est en grève, eh bien, on ne peut suspendre la grève que dans une assemblée générale des enseignants.
Clôture hier de l'année académique 2020-2021 dans plusieurs universités et instituts supérieurs de Kinshasa. À l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA par exemple, 235 finalistes ont été largués sur le marché de l'emploi. La direction générale de cet établissement leur a demandé de mettre en pratique toutes les théories apprises au cours de leur formation. Paul Matendo, reportage.
Pierre Kasingedia, directeur général de l'ISTA Kinshasa, a encouragé les finalistes de continuer à se perfectionner, à approfondir les recherches dans leurs domaines respectifs. C'est ainsi que, selon lui, ils vont contribuer à la reconstruction du pays.
Vous avez une lourde tâche à accomplir pour que nous puissions produire des Made in Congo. L'industrie de la République démocratique du Congo ne pourra pas démarrer si vous ne mettez pas la main dans la pâte. Vous devez chaque jour enrichir votre bagage intellectuel. Vous devez continuer à étudier.
Quelques finalistes interrogés se réjouissent d'obtenir leur diplôme, mais tous reconnaissent les difficultés auxquelles ils ont fait face pendant leur formation.
D'abord, ce n'était pas facile au début. On avait un problème de frais et tout, mais gloire à Dieu, grâce à Dieu, ça évolue.
Pendant mes cycles universitaires, ça n'a pas été facile. Au début, il y a eu des moments difficiles, mais toutefois, j'avais la foi qu'au moins, quelles que soient les circonstances, j'étais vraiment déterminé de décrocher ce diplôme.
Cette année a été courte, a reconnu Pierre Kasingedia, mais marquée également par la crise sanitaire liée au Covid-19.
Actualité Afrique Monde.
Le 7 novembre prochain, les chefs d'État ouest-africains se réuniront à un sommet extraordinaire, un sommet de la CEDEAO pour statuer sur l'évolution de la transition en Guinée où une délégation s'est rendue vendredi. Mais au centre des discussions, il y aura aussi et surtout la transition au Mali alors que la tension est montée d'un cran ces derniers jours entre la CEDEAO et la junte au pouvoir. Entre-temps, au Soudan, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de manifestants soudanais sont sortis hier dans les rues de Khartoum et dans plus de 70 autres villes du pays pour exiger le rétablissement d'un gouvernement dirigé par des civils afin de remettre le pays sur la voie de la démocratie, cela après le coup d'état militaire de lundi dernier. À Omdurman, 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, nous recevons le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC, David McLachlan Carr, a conduit cette semaine au Kasaï et au Kasaï central une délégation des ambassadeurs. Selon lui, cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en marche du plan Nexus pour la région, cela quelques jours après le départ de la MONUSCO. Avec les agences onusiennes et d'autres partenaires, le souci est d'avoir une réponse humanitaire pour les populations, mener des projets de développement et consolider la paix, a souligné David McLachlan Carr. Il s'entretient à ce sujet avec François Kadima.
David McLachlan Carr, bonjour.
Bonjour.
Kananga, c'est vrai que après le départ de la MONUSCO, les agences continuent le travail ici. Il y a le programme Nexus. Où nous en sommes aujourd'hui avec le Kasaï?
Oui, je suis venu cette fois, c'est ma 7e visite à Kananga avec mon coprésidente du groupe de coordination des partenaires. C'est une plateforme qui existe au niveau de Kinshasa pour coordonner, mieux coordonner les activités entre les bailleurs des fonds et je suis le co-président. On a décidé de venir juste pour prendre mesure de la situation ici dans les Kasaï et Kasaï central. Après le départ de la MONUSCO, il y a à peu près 5 mois, nous avons eu aussi l'opportunité de visiter quelques projets qui reflètent cette nouvelle approche Nexus qui est l'approche que nous avons adoptée pour mieux coordonner les activités entre les 3 volets humanitaires, projet de développement et la construction de la paix. La logique, c'est de mieux travailler ensemble entre les partenaires, surtout les ONG nationales et ONG internationales et les Nations Unies pour créer une vraie stabilité et pour en faveur de la stabilisation des provinces du Grand Kasaï.
Vous avez déjà une idée sur les activités qui doivent être menées dans le cadre Nexus?
Oui. Nous avons identifié 4 axes de travail. Premièrement, on a des projets maintenant pour aider les communautés de rétablir l'activité agricole avec les livraisons des semences, des outils, mais aussi accès surtout pour les femmes à la terre. Le deuxième axe, la réintégration communautaire et la stabilisation, surtout pour les populations déplacées. Troisièmement, c'est la bonne gouvernance. Nous allons des projets conjoints pour renforcer les capacités étatiques, surtout pour la gestion des ressources naturelles, l'administration publique. Quatrième axe, on a comme un projet de renforcer les services de base, des projets conjoints pour l'éducation et dans la santé. Pensons qu'une priorité pour les Kassai, c'est vraiment de rétablir les services de base à la population parce qu'ils sont assez faibles depuis des années des conflits et des années des manques d'investissement.
Vous avez visité le Kassai voisin et le Kassai central. Estimez-vous qu'aujourd'hui, les voies sont balisées pour la réalisation de tout ce plan qui sont définis pour la consolidation de la paix, la gouvernance et le développement, selon vous?
C'est une très bonne question. Je crois que c'est le moment d'entamer des projets sur le Nexus parce que nous sommes dans un contexte post-conflit, mais les Kassai restent toujours comme une région assez fragile avec beaucoup d'instabilité à cause des conflits. Oui, c'est le moment parce que la MONUSCO est partie il y a quelques mois, mais nous sommes maintenant en train de renforcer la présence des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. Alors, ça veut dire que le départ de la MONUSCO ne va pas dire pas du tout le départ des Nations Unies. En effet, maintenant, on se trouve dans le nouveau bureau, le nouveau bâtiment du PNUD qui vient d'établir une présence permanente ici dans le Kassai pour coordonner les activités pour le développement. Alors, l'appropriation des parts du gouvernement, c'est bien importante dans tous ces processus. On a eu des conversations avec les deux gouverneurs et nous avons encouragé le gouverneur aussi de prendre le leadership de ces processus et vraiment de coordonner nos efforts aussi et assurer la bonne coordination entre les efforts du gouvernement et les efforts des Nations Unies, que nous travaillons en synergie avec les priorités identifiées par les autorités provinciales. Mais il faut avoir cette leadership de part du gouvernement pour nous donner des orientations et pour les secteurs qui nous devons aider. Et ça, c'est bien important.
David Maklakankara, nous vous disons merci.
C'était un plaisir d'être avec Radio Okapi aujourd'hui. Merci beaucoup.
Notre invité, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC, s'entretenait avec François Kadima. C'est la fin de ce journal supervisé par Ben Kabamba, coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiokapi.net.